Bonjour à tous, content d'être parmi vous ce matin, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite du coup nos meilleurs voeux avec Eliette pour cette nouvelle année qui s'annonce. Voilà, c'est une autre année encore que le Seigneur nous donne, et moi tout ce que je peux vous souhaiter c'est bien sûr la santé et compagnie, mais surtout que le Seigneur puisse vous garder en lui, c'est le plus important, même la santé ça passe après. Si je dois voter entre que vous soyez malade et que vous restez chrétien, je voterai pour ça. Quitte à ce que vous soyez malade, c'est pas grave, le Seigneur sera là. Mais voilà, si on peut ne pas en arriver là, mais quelquefois le Seigneur utilise des fois des épreuves pour nous faire bouger. Donc à nous aussi de rester accrochés à lui. Cette année 2024 elle continue, hein. Donc elle aura son lot de joie, comme on a pu. Et merci Marlène, c'est un bon exercice. Et son lot aussi d'épreuves, à nous de rester accrochés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter durant cette année. Et pour nous aider à cela, le Seigneur nous a donné un moyen, qui est bien sûr la prière, la lecture de sa parole, mais un moyen encore plus pratique, qui est la communion fraternelle. Ce matin, Marlène, et c'est un bon exercice, la première fois que je vois tout faire comme ça, un bon exercice où on a pu échanger ensemble sur les bienfaits du Seigneur. Et ce matin, ça va être la thématique de ce matin, et puis pour commencer cette nouvelle année, une thématique importante, voilà, que je vais faire en deux temps, ce matin, et puis dans deux semaines, on continuera la suite. Et j'ai intitulé le message de ce matin, frères et sœurs. Tu peux mettre la diapo? Frères et sœurs, quand on voit cette diapo, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, frères et sœurs? Quand on n'est pas chrétien, on se dit, mais on est tellement différents. Regardez autour de vous, hein. Il y a rien qui nous unit, en tout cas physiquement, on est très différents. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des roux, il y en a qui ont des cheveux, il y en a qui n'ont pas de cheveux, malheureusement pour eux. Mais voilà, c'est comme ça. Et pourtant, nous nous appelons et nous disons entre nous que nous sommes frères et sœurs. Salut frère, salut ma sœur, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Quand on se voit, c'est devenu un terme tellement courant dans le milieu chrétien que des fois on ne réalise pas trop ce que cela veut dire. Et quelquefois, même pour ne pas dire souvent, on ne vit rien de cette fraternité dont on parle et dont on exprime. On va dire bonjour mon frère, bonjour ma sœur, sans des fois savoir ce que la sœur vit. Pire, sans des fois même connaître son prénom. Et on va dire bonjour mon frère. Bon, j'ai mon frère qui est là. Imaginons, je le connais pas du tout, je le découvre, il vient d'arriver. Je dis bonjour mon frère. Ou je dis bonjour mon frère dans la rue, un gars qui est là, je dis bonjour mon frère. Et des fois, c'est un peu ce qu'on fait. Alors dans la rue, les gens vont nous dire, mais qu'est-ce qu'il a lui, je te connais pas. Et nous, des fois, entre nous, on dit bonjour mon frère, bonjour ma sœur, alors qu'on se connaît pas du tout. On connaît même pas le prénom de la personne. Et du coup, se pose la question, mais du coup, pourquoi on appelle frère et sœur quelqu'un dont on ne connaît pas? Alors quand on vient d'arriver, c'est normal, quand ça fait quelques années qu'on est là à l'église, ça commence quand même à poser question. Du coup, qu'est-ce qu'on appelle frères et sœurs? Et quelquefois, du coup, les relations que nous avons entre nous, c'est plus des inconnus, de vrais étrangers, plutôt qu'une relation fraternelle, comme Dieu nous appelle à le vivre. Et je vous invite du coup ce matin à ouvrir vos Bibles, dans Actes au chapitre 2, au verset 42, on va un peu s'attarder sur ce texte, qui va parler du coup de l'importance ici d'un des piliers de l'Église primitive, qui est la communion fraternelle. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qu'il sauvait. Merci Seigneur encore mon Dieu pour ta parole ce matin. Toi qui es notre Père, mon Dieu, nous voulons encore nous mettre à ta disposition et viens nous aider encore à comprendre ce qu'elle veut nous dire. Amen. Alors, je vais vous poser une question, puisque ici nous sommes entre frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? Pour vous. On peut avoir une définition différente hein, en fonction de chacun. Si quelqu'un arrive et vous dit, voilà, quelqu'un de l'extérieur arrive et dit, bon, bah, dites ses frères et sœurs, mais c'est quoi la communion fraternelle? Porter les fardeaux des uns des autres, ouais, effectivement. Oui, Charles. Ouais. Ça rejoint à ce que Liliane dit aussi, ouais. Autre chose? L'amour, oui. Ouais. Ah, là, ça devient intéressant. Et c'est un des premiers points, hein, reconnaître qu'on a un problème. Parce que entre nous, on dit frère et sœur, mais pourquoi du coup je dirais pas ça, à la caissière, à Leclerc, bonjour ma sœur, comment ça va? Qu'est-ce qui fait la différence? Et je pourrais même avec un ami non chrétien, hein, partager mes soucis, mes fardeaux, mais une des différences, c'était déjà là, et tu le soulignes, Lydiane, c'est le fait que nous ayons déjà un même père. Autre chose? Les mêmes valeurs? Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, Tiphaine. On croit à la même chose. Ce Dieu qui est aussi notre Père, on a mis notre foi en lui. Quelqu'un d'autre? Vivre ensemble en paix. Ça, c'est un gros défi. Parce qu'entre frères et sœurs, des fois, on est tellement différents que on dit bonjour mon frère, bonjour ma sœur, mais on n'aimerait pas trop le dire. Mais oui. Vivre ensemble en paix. En français, le mot communier ici fait référence à une profonde unité de pensée, de sentiment et d'intention. On est unis ensemble. Et ce qui nous permet d'être unis ensemble, c'est ce que tu viens de dire, Lydiane, c'est que nous avons en Dieu un Père. Dieu se définit avec nous comme un Père. Et ce Père, qu'est Dieu, a des enfants. Et ces enfants que nous sommes, du coup, nous sommes unis à lui. Plus que cela, il habite dans nos cœurs, et du coup, quand nous voyons notre frère ou notre sœur, c'est Christ que nous voyons. Dieu va encore plus loin que cela. Alors tous ne sont pas du coup frères et sœurs, et seuls ceux qui sont entrés dans cette relation nouvelle avec Dieu sont appelés frères et sœurs. Et peuvent expérimenter du coup pleinement la communion fraternelle. Elle s'étend aussi loin que le cercle des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ici à l'église, nous sommes frères et sœurs, mais il y a des enfants de Dieu un peu partout en France et à travers le monde. Et elle renverse toutes les barrières confessionnelles, dénominationnelles, nationales ou même raciales. Et c'est ce qui est beau dans la famille de Dieu, c'est que du coup, nous on est arrivés ici il y a 2 ans, et tout de suite, on se connaissait pas, et très vite le lien se fait. Et c'est la beauté de l'Église. Malgré le fait qu'il n'y ait rien d'autre que cette unité à Dieu qui nous unit. Animés du coup d'un même Père, animés du même Esprit, héritiers d'une même espérance, nous pouvons prier, louer Dieu et travailler ensemble. Dans ce texte, il est question ici, là, il y a un mot qui revient 2 fois et qui mérite d'être souligné, c'est le mot persévérance, la persévérance. Il persévérait dans la communion fraternelle, et un peu plus loin, chaque jour avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord. Et du coup, déjà, quand on voit ce terme persévérance, cela veut dire que c'était pas évident, même à l'église, dans l'église primitive de l'époque, de vivre la communion fraternelle. Puisqu'ils devaient persévérer. C'est pas inné de pouvoir se retrouver tous ensemble alors qu'on est très différents. Mais, parce qu'ils étaient animés d'un même cœur et de l'amour de Dieu, ils persévéraient, ils faisaient tous leurs efforts pour aller connaître et se connaître entre eux. Si j'ai de la communion avec mon frère ou ma sœur, je serai du coup pour lui, pour elle, un appui, un soutien, un ami. Quelqu'un sur qui il ou elle pourra s'appuyer. Et nous devons dans nos relations fraternelles persévérer. Ne pas attendre assis sur notre chaise que tout se fasse, mais c'est persévérer, mettre des éléments, des choses en place pour pouvoir mieux se connaître et vivre cette fraternité que nous parlons de nos bouches. Si nous ne voulons pas le faire, il ne faut pas s'appeler frère et sœur, il faut s'appeler bonjour, toi l'inconnu qui vient tous les dimanches matins, que je croise tous les dimanches et que je ne connais pas. Là, ce sera plus honnête. Mais on ne peut pas dire frère et sœur et ne pas faire les efforts de se connaître. Si on ne persévère pas dans cela, dans la communion fraternelle, il peut arriver deux choses. Soit on ne connaît plus les nouvelles personnes qui arrivent à l'église, puisque du coup on ne fait pas les efforts pour, soit on finit en clan. Et du coup, dans des églises, on peut retrouver des clans. Ou du coup, entre clans, on est frères et sœurs, mais ça ne dépasse pas le clan. Soit les deux. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les nouvelles personnes et en plus on est dans les clans. Alors là. Mais c'est pas ça ici que l'Église primitive vivait. Il persévérait dans la communion fraternelle. Alors une petite aparté, parce que dans ce passage, il est question, et c'est un texte qui a fait beaucoup jaser, il est question de dons et de biens. Les dons et les biens, verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Alors comment vous comprenez cela ? Est-ce que nous devons tout vendre et vivre à l'époque de l'Union soviétique ? Le communisme, et d'ailleurs qui s'est inspiré de cela. Voilà, comment on peut comprendre ce texte ? Vous avez une idée ? C'est pas tout à fait ça. Ça c'est plus, ça rejoint plus l'idée du communisme d'ailleurs, mais non, il y a autre chose. Ouais, ça en fait partie. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous lisez ce texte? Est-ce que du coup, vous vous dites, il faut que je sois plus, je sais pas, que je possède rien, que je vende tout ce que j'ai et qu'on vive ensemble en communauté? Voilà, qu'est-ce que ça vous parle? Oui, Charles. Ouais. Alors, ça rejoint un peu ce tableau-là. Alors, vu que tu es d'origine africaine, je pense que tu comprends mieux un peu, mais c'est ça. Donc, en fait, ici, il est question surtout de générosité, pas de vivre, de tout vendre et de tout partager. D'ailleurs, je vais appuyer la différence entre le communisme, qui s'est inspiré de cela et qui est faux, et ici, ce texte dont il nous parle. Et ici, les chrétiens mettaient à disposition de leurs frères pauvres tous les biens qu'ils pouvaient avoir et qu'exigeaient du coup les nécessités de leurs frères et sœurs qui étaient dans la nécessité, dans le besoin. Cette mise en commun des biens ne se vit d'ailleurs que à l'église de Jérusalem. Dans les autres églises, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Paul, il va reprendre d'autres églises en disant qu'ils ne sont pas assez généreux d'ailleurs. Donc c'est que l'église de Jérusalem qui vit cela, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais voilà, ça se limite à l'église de Jérusalem, et c'est surtout une générosité. C'est pas une règle que l'église de Jérusalem s'appliquait, et dès qu'un chrétien devait arriver à Jérusalem, il devait tout vendre et vivre en communauté. C'était pas du tout le but. Il n'y avait pas non plus à Jérusalem une institution dans l'église légale qui gérait cela. Comme dans le communisme, on récolte tout, il y a une institution qui est là, qui récolte, et qui théoriquement doit répartir. Et là, il n'y avait rien. C'est de la générosité, c'est-à-dire que quelqu'un avait quelque chose, il voyait son frère dans le besoin, et ben il pouvait vendre du coup même sa maison, sa voiture, pour pourvoir aux besoins de son frère ou de sa sœur, parce que c'est son frère et c'est sa sœur. Ça va ? Tous les chrétiens du coup restaient d'ailleurs parfaitement libres de conserver du coup leurs biens, et d'ailleurs nous voyons en acte 12, verset 12, on peut voir Marie, donc c'est la mère de Marc ici, qui va être en possession de sa propre maison. Pourtant, elle vit aussi à Jérusalem. Voilà, donc c'est pour faire un peu un aparté, puisque dans ce texte, même encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens le comprennent mal et vivent des fois un peu reclus de la société, ils disent qu'il faut tout vendre et vivre ensemble. En tout cas, on peut le faire, mais ça, il n'y a rien qui dans ce texte-là qui appuie dans ce sens. Ici, c'est question de générosité, de vivre ensemble dans la générosité et pourvoir aux besoins des frères et sœurs par rapport à ce que Dieu nous a donné. La charité chrétienne dit ce qui est à moi est à toi. Le communisme dit ce qui est à toi est à moi. C'est pas la même chose. L'amour chrétien dit ce que j'ai, je te le donne. Le communisme dit donne-moi ce que tu as. C'est pas du tout pareil. Donc voilà. Donc c'est pour faire un peu, voilà. C'était une parenthèse, une parenthèse un peu importante, mais par rapport à tout cela. Et ce qu'implique ce passage ici, c'est la condamnation de l'avarice des riches, qui finalement n'étaient pas assez généreux vis-à-vis des frères et sœurs qui étaient dans le besoin. Alors pour revenir sur la communion fraternelle, ici elle touche un aspect pratique. Si mon frère ou ma sœur manque de quelque chose, pas juste dire « je vais prier pour toi ». D'ailleurs Jacques va dire « mais attends, non, pourvoie son besoin et après il pourra t'entendre ». Et finalement c'est faire le maximum pour pourvoir aux besoins de mon frère ou de ma sœur. Alors, bien entendu, ici, je vais quand même le soulever, c'est important de pas non plus tomber dans des excès, parce que bien souvent, des fois, on peut se dire, mais voilà, il y a l'amour chrétien, et des fois, on peut avoir des chrétiens qui sont un peu comme des tiques, vous savez, ils sont là, ils s'accrochent aux autres, ils pompent toute leur énergie, et une fois qu'il n'y a plus rien, ils s'en vont. Mais ça, c'est pas une relation équilibrée de communion fraternelle. Ici, c'est savoir aussi se protéger par rapport à ceux qui peuvent, des fois, demander beaucoup plus, et d'ailleurs qui nous voient plus en tant que Dieu qu'en tant que frère ou sœur. Mais il s'agit quand même d'être vigilant par rapport à ceux qui nous entourent. Et pour faire cela, pour connaître ceux qui vivent dans le besoin, ceux qui sont dans le besoin ou pas, il faut déjà les connaître. Si on ne connaît pas, on peut dire « mais tout va bien hein, », c'est juste qu'on ne se connaît pas. Intéressant dans ce texte, parce qu'on a quatre piliers de la vie chrétienne qui est mise en avant, et on peut voir, du coup, il y a l'enseignement, persévérer dans l'enseignement, ensuite il y a la communion fraternelle qui vient, il y a la fraction du pain, donc la fraction du pain c'est la scène, et ensuite on a la prière. Et c'est étonnant parce que nous on aurait mis plutôt la prière en premier. On peut voir ici que la prière, elle est en dernière position. Pourquoi ? Parce qu'avant de prier, il faut se connaître. Bien sûr, la parole est en premier lieu, l'enseignement de la parole, mais ensuite, c'est la communion fraternelle. C'est vivre les choses ensemble. En se connaissant, on peut prendre, logiquement, après la scène, qui symbolise l'union du corps de Christ, et ensuite, on peut prier. Et on ne peut pas prier si on ne se connaît pas. C'est un non-sens. Alors voilà, on va voir un peu maintenant ce que l'Église et la communion fraternelle, surtout, n'est pas. Bon, accrochez-vous, peut-être que ça va faire un peu mal. Hein. Mais voilà, c'est pour que nous puissions être sensibles à cela et surtout que nous puissions un peu changer et surtout mieux vivre la communion fraternelle. Alors je viens de le dire, la communion fraternelle, c'est pas une Église où il y a des clans. Alors bien sûr, dans une Église, il y a des affinités que l'on peut avoir... par rapport à l'un ou à l'autre, ça c'est normal, hein, les affinités, on s'entend pas tous du même niveau, comme dans une fratrie, dans une famille, hein, avec les frères et sœurs, on n'a pas la même relation avec un tel ou un tel. Mais il n'y a pas de clan. Et quand je dis clan ici, c'est des murs de séparation. C'est des murs de séparation au point que l'on vienne à l'église depuis des années, sans connaître rien, même pas le prénom du frère ou de la sœur, qui est là aussi et qui vient depuis des années. Et là, il y a un problème quand même. Dans notre église à Saumur, nous sommes encore, et ça c'est une chance, hein, nous sommes encore à taille humaine. Voilà, on est à peu près à une centaine maximum là, et du coup, on n'a pas l'excuse du nombre. Dans certaines églises, bon voilà, moi j'étais à une église à Saint-Germain, on était 300, c'est plus difficile. Il faut faire autre chose pour mieux se connaître. Ça ne veut pas dire que du coup il ne faut pas se connaître, mais on doit mettre d'autres choses en place pour mieux se connaître, parce que oui, on est beaucoup trop nombreux. À Saumur, on n'a pas cette excuse-là. Le seul motif qui peut empêcher qu'on puisse se connaître, c'est notre volonté de ne pas connaître, ou notre difficulté peut-être par rapport à notre caractère, mais je pense qu'avec le temps, si on connaît le Seigneur, il faut se plonger à l'eau. Il faut persévérer, se dire, mais dans le frère ou la sœur, il y a Dieu qui a le même Père, il a le même Père que moi, pourquoi je ne le connais pas ? L'apôtre Jean, d'ailleurs, va dénoncer cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. Il va dire ceci. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'as jamais vu, alors que tu n'aimes pas le prochain, que tu ne connais pas le prochain que tu vois. Et ici, Jean, il va simplifier finalement l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu en disant finalement, mais on ne peut pas dire que j'aime Dieu si nous n'arrivons pas déjà à nous aimer entre nous. à aimer, d'ailleurs même le frère. Là, on ne parle même pas du non-chrétien, hein, le frère ou la sœur qui est parmi nous. Et dire après que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas. Et dans l'Église, il n'y a pas de clan. Il n'y a pas le clan des riches d'un côté, le clan des pauvres de l'autre. Alors voilà, je vais faire une liste, elle n'est pas exhaustive, hein, mettez ce que vous voulez en tant que clan. Il n'y a pas le clan de la classe sociale un peu haute entre eux et de l'autre, le clan des milieux populaires. Il n'y a pas le clan des blancs entre eux, le clan des noirs entre eux. Il n'y a pas « j'aime bien ce groupe-là plutôt que l'autre ». Et vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Il n'y a pas le clan des blonds, le clan des je sais pas quoi, voilà. Il n'y a pas de clan dans l'Église. Il y a des affinités qu'on peut avoir, mais ces affinités, elles ne doivent pas nous empêcher, du coup, de connaître, ou de ne pas connaître, surtout, les autres. Ça va ? Je vous ai dit, hein, là, on parle concrètement par rapport à notre Église. Et c'est important pour nous, ce n'est pas une option que Dieu nous laisse, c'est ce qu'il nous a laissé, la communion fraternelle. Jésus va dire, d'ailleurs, avant de partir, c'est la prière qu'il va faire au Père, « Je prie pour qu'il soit un ». Et Jésus savait que ça allait être difficile. Parce que comment un groupe, autant que nous sommes, dans la différence, on peut vivre ensemble, s'appeler vraiment frères et sœurs, et le vivre surtout. Mais c'est possible. Parce que le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs, c'est le même qui habite dans le cœur du frère ou de la sœur. Le même esprit est répandu dans nos cœurs. À nous, du coup, de faire les efforts dans l'amour vis-à-vis de l'autre. Une autre chose aussi qu'on retrouve dans l'Écriture, c'est que la communion fraternelle, est un cœur à cœur avec mon prochain, et en général, celui qui a une bonne communion avec Dieu a une bonne communion fraternelle, ou en tout cas recherche la communion fraternelle. Quand je parle de communion avec Dieu, c'est une relation personnelle à Dieu, régulière, quotidienne à Dieu. Et inversement, on ne peut pas dire du coup avoir une communion mature et profonde avec le Seigneur, et être dans une absence de recherche, de persévérance, de communion fraternelle. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que je vous renvoie à ce verset de 1 Jean 4, verset 20. On ne peut pas aimer son prochain, dire aimer son prochain, aimer son Dieu plutôt, si on n'aime pas le prochain que l'on veut. Et du coup, pour nous ici, il s'agit, peut-être que du coup vous découvrez, de savoir dans quel niveau de relation, de maturité avec le Seigneur je suis. Et cela se verra, si vous voulez savoir, vous voyez du coup votre communion fraternelle. Au niveau, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous arrivez du coup à avoir ce souci de connaître les autres ou pas ? Et du coup, ça reflètera un peu où est-ce que vous en êtes. Voilà. Alors, c'est pas dramatique, hein, tant qu'on avance. Et ici, le but, c'est d'avancer et de faire toujours de mieux en mieux dans la connaissance de l'autre. D'ailleurs, cela éviterait dans l'Église peut-être 90% des conflits. Puisque, et pour pas dire quasiment tous les conflits dans l'Église, la grosse majorité, en fait, viennent parce qu'on ne se connaît pas. Et du coup, cela entraîne beaucoup de quiproquos, de « on dit ». Parce que si on se connaît, on dialogue, on discute. Et voilà, ça évite tout conflit, tout quiproquo. Troisième élément, la communion fraternelle, c'est aussi un élément essentiel pour faire des disciples dans ce monde. Ce verset, il conclut comme cela, « Et le Seigneur ajoutait ceux qu'il sauvait à son Église. Pourquoi ? Parce qu'il vivait tout cela. Et la communion fraternelle en faisait partie. La communion fraternelle répond à la vocation de l'Église envers le monde, des relations nouvelles, que les païens de l'époque voyaient dans ce groupe à Jérusalem, de ces églises de Jérusalem, ils se disaient, mais attendez, ils sont tellement différents, il y a des juifs, il y a des non-juifs, et pourtant, entre eux, ils s'aiment, ils se connaissent en tout cas. Alors peut-être qu'il y avait même sans doute des tensions, mais en tout cas, ils s'appellent frères et sœurs et ils le vivent. Quand on voit un homme qui va vendre sa maison pour pouvoir aux besoins de l'autre, ça c'est pas de l'amour, on sait pas c'est quoi, hein. Et ici, du coup, les païens étaient tellement interpellés que du coup, ils s'approchaient de Dieu. Parce que ce n'est pas humain de faire ça. Et c'est la communion fraternelle et notre qualité de communion fraternelle à l'Église, dans notre Église ici à Saumur qui jouera essentiellement sur le fait qu'on fasse des disciples à l'extérieur de nos murs. On peut toujours prier, comme je viens de le dire, mais dans la liste qu'on vient de dire, la prière, elle vient après. La communion fraternelle. Dieu nous appelle avant de nous cacher derrière autre chose, tout exercice de piété, de se mettre en action. Le monde, de son côté, lui, aspire à trouver un milieu où les liens humains sont authentiques, sont solides et profonds dans une société où, de plus en plus, c'est la solitude, c'est l'individualisme qui prime. Et on en parlera d'ailleurs la prochaine fois. Et l'Église, du coup, sur ce plan-là, peut apporter un témoignage différent, unique et convaincant si le monde voit un groupe dans lequel les membres s'aiment réellement alors que nous sommes très différents entre nous. Alors il écoutera peut-être aussi plus attentivement ce que les chrétiens ont à lui dire. L'expérience nous montre, hein, et c'est logique d'ailleurs, que la plupart des personnes de l'extérieur intégrées à une église ont d'abord ce qui les a interpellés, c'est pas les chants, c'est pas les murs, c'est pas la belle musique, non, c'est quelles relations ont ces personnes, ces chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Et ce qui interpelle, c'est cette communion fraternelle, qui est là ou qui est pas là. Quand on s'aime les uns les autres, finalement les personnes qui viennent au milieu de nous voient la différence et Dieu peut ensuite interpeller leur cœur. Cet amour que nous parlons, que nous prêchons, finalement elle doit se manifester. Alors voilà, comment arriver à se connaître ? Déjà pour commencer, c'est avoir conscience que nous avons en commun, malgré toutes les différences que nous pouvons avoir, nous avons quand même en commun un même sauveur. Un même Père, nous avons en commun un même esprit et nous avons en commun une même destination qui est l'éternité. Et cela doit nous motiver à nous connaître. Ça fait quand même beaucoup de points communs quand même. Et du coup, comment arriver à se connaître ? Eh ben, c'est simple, hein, c'est déjà commencer à se dire bonjour. C'est pas très compliqué, hein. Et se dire, mais le frère ou la sœur, c'est pas un ennemi, bien au contraire, il connaît Dieu en plus, donc il ne mangera pas, hein, il va pas. Et du coup, ça commence déjà par un bonjour. Bonjour mon frère. Alors peut-être que vous le faites si vous connaissez pas le prénom, mais voilà, comment tu t'appelles ? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se voit, mais comment tu t'appelles ? C'est jamais trop tard, hein. Et ça commence dès maintenant. Allez voir du coup ceux qu'on ne connaît pas et dire bonjour à ceux qu'on ne connaît pas. Souvent, à la fin du culte, qu'est-ce qui se passe ? On va vers ceux voilà, avec qui les affinités, c'est normal. Mais du coup, si on fait que ça, ça devient des clans. Parce que les clans de commencer, bah, en fait, c'est quand du coup on reste que entre nous, et que ces affinités sont tellement fortes qu'elles nous empêchent de connaître les autres frères et sœurs. On ne connaît même pas leur prénom, on ne connaît même pas leur vie, et là, c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Alors voilà, il s'agit pas ici tout de suite avec quelqu'un de nouveau, alors sauf si vous avez de la facilité, ça c'est pas, et du coup tant mieux, mais de lui demander, et tout à l'heure vous allez le faire, ça va être votre exercice ce matin, de lui dire bonjour et de lui demander son CV, hein, et non, après il faut prendre le temps de connaître, il faut la confiance qui s'installe, mais cette confiance normalement elle doit être assez rapide, puisque nous sommes entre frères et sœurs. Et ici, du coup, il s'agit de se connaître tout simplement, ça peut être en s'invitant, ça peut être... Et c'est ça qui montre, finalement, si nous avons compris la foi, l'espérance chrétienne que nous parlons et que nous prêchons. Ça va ? Souvent, on va penser, c'est au boulot du pasteur de le faire. Alors, non. Dans ce texte, il n'y a pas marqué « Et le pasteur persévérait dans la communion fraternelle et les autres, ils faisaient la prière, la Sainte Cène. » Non, non, non. C'est le travail et la responsabilité de chacun de nous de se mettre en peine pour celui qui commence à s'absenter, par exemple, de plus en plus, qu'on ne voit plus régulièrement, et du coup de se dire, mais voilà, c'est mon frère, c'est ma sœur, qu'est-ce qui lui arrive ? La communion fraternelle dans l'Église, c'est pas une personne qui fait le lien entre tous. Alors moi, l'avantage, c'est que je vous connais presque tous, pour pas dire quasiment tous. Mais c'est pas moi qui va faire la communion fraternelle entre vous, hein, donc c'est à vous de vous connaître. Et si j'ai fait ce message ce matin, c'est que j'ai bien conscience, hein, mes frères et sœurs, qu'entre nous, il y a des clans. On va parler vrai maintenant, voilà. Et entre nous, bah, on en a du mal à aller vers l'autre. Et il s'agit ici, du coup, de faire l'effort, comme ces premiers chrétiens, de persévérer dans la communion fraternelle, pas d'aller naturellement vers ceux avec qui c'est facile, qu'on connaît déjà. Et c'est bien, ça ne veut pas dire que du coup, il faut les effacer. Mais d'arriver à connaître, du coup, autour de nous, ceux qu'on croise tous les dimanches, toutes les semaines, et dont on connaît rien. Avoir le souci de l'autre, et du coup, ça commence, Comment faire? Ça commence déjà par un bonjour. C'est pas très compliqué, mais c'est, du coup, ça demande de sortir de sa zone de confort, de ne pas aller que vers ceux dont on a l'habitude de parler. Alors peut-être que parmi vous, parmi nous d'ailleurs, certains ne se sentent pas accueillis ou en communion fraternelle. Et ici, c'est à chacun de nous de faire l'effort et de se dire, mais voilà, peut-être que moi je suis moins accueilli, je connais moins les personnes ici à Saumur, et de se dire, mais c'est à moi du coup de vouloir de mettre ça en place, d'aller vers les autres, de pas attendre. La réaction du chrétien qui est immature, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de faire comme le non-chrétien. Et c'est là qu'il y a un problème. Quand on fait comme le non-chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans l'église, personne ne lui parle, qu'est-ce qu'il fait? Il revient pas. Il va dire, ici c'est froid, personne ne m'a parlé, je reviens pas. Et des fois, il y a des chrétiens qui réagissent comme ça. Qui vont dire, moi je viens ici, personne ne m'a parlé, ah bah bye bye. Ok, d'accord. C'est ça, frères et sœurs, eh ben, dis donc. Alors quand c'est des personnes non-chrétiennes, ça peut se comprendre. Quand c'est des chrétiens, c'est problématique. Et c'est pas ici ce que l'église de Jérusalem faisait. Ils persévéraient. Et ils n'attendaient pas assis dans la chaise que l'autre vienne vers l'autre. Et ici, quand je vous parle, du coup, il s'agit de chacun de nous d'aller vers l'autre. Et de faire connaissance. Alors voilà, je vais conclure par un petit témoignage. Et j'en profite ce matin, puisque cette personne, elle n'est pas là parmi nous. C'est le témoignage, et ça va vous parler. Parce que pour l'instant, c'est quelqu'un en plus que vous connaissez. C'est le témoignage de notre sœur Phyllis. Vous connaissez Phyllis? Et en arrivant ici, Phyllis, voilà, on avait beaucoup échangé un peu sur sa vie. Et cette sœur, elle m'a interpellé sur quelque chose. Puisqu'elle m'a un peu raconté sa vie, voilà, notre sœur Phyllis, alors vous la connaissez, hein, du coup, vous étiez là d'ailleurs quand elle a dû vivre tout cela, voilà, elle a eu un cancer il y a quelques années, elle venait déjà à l'église, mais à cette époque-là, elle me racontait que, voilà, elle connaissait pas grand monde ici. Elle venait, elle connaissait quelques personnes, son cancer est arrivé, et qu'est-ce qui s'est passé? Une belle communion fraternelle, personne ne l'a appelée. Bon, malheureusement, ça arrive, hein. Personne ne l'a appelé, et du coup, Phyllis, ça l'a blessé. Ce qui est logique. Quand dans une église, personne n'appelle, alors que, on est quand même, on n'a pas un rhume, hein, on a un cancer. Et personne n'a pris de ses nouvelles vraiment quand tout ça s'est fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle s'est dit, allez, je repars à Hong Kong? Bon, là, elle est à Hong Kong, hein, mais c'est pas pour cette raison-là, hein, c'est pour autre chose. Elle s'est pas dit ça, Phyllis. Et elle m'a dit, mais, moi, ça m'a blessé, et du coup, moi, je vais revenir. Et voilà, je reprends un peu ce qu'elle m'a dit. Hein. Moi, je l'ai mal vécu, alors je refuse que d'autres chrétiens vivent cela. Et parce que déjà, le problème, c'est moi. Pourquoi moi aussi, j'ai pas fait l'effort de connaître les autres? Et moi, je vais être différente et je vais faire en sorte de connaître un peu tout le monde. D'aimer les autres. Concrètement. Et j'ai trouvé que c'était un beau témoignage. Alors qu'elle a vécu une situation, je pense, une des plus terribles, hein, au niveau de la santé, un cancer. Personne ne l'a appelé, voilà, et elle aurait pu se dire, je pars. Réagir comme des non-chrétiens, d'ailleurs. Et notre sœur était chrétienne plutôt assez réfléchie, et elle s'est dit, je vais persévérer dans la communion fraternelle, parce que le problème, c'est aussi moi. Si personne m'appelle, c'est parce que aussi, peut-être, j'ai pas créé assez de liens avec les frères et sœurs. Alors voilà un défi ce matin, et cette année qui arrive. C'est prendre le temps d'aller converser avec une personne que vous connaissez peu à l'église. Demander de lui parler, voilà, de son itinéraire, où est-ce qu'elle habite, de son chemin avec le Christ. Et cela ne pourra que être bénéfique pour chacun de nous, pour vous, et pour le développement d'ailleurs de notre église ici à Saumur. Est-ce que ça vous va? On va partager la scène tout à l'heure. Cette scène, elle symbolise cela, l'union entre nous. Alors voilà, avant de prier et de lire deux versets, je vous invite à regarder un peu autour de vous et de voir du coup la personne avec qui vous connaissez pas ou que vous connaissez moins et de pas vous dire, allez, je fuis là ce matin et je prends la poudre d'escampette. Vous pouvez le faire, hein. Mais ici, il s'agit, quel chrétien je suis? Est-ce que je suis un chrétien mature ou un chrétien qui veut rester dans son confort, dans sa zone de confort? Et ici, Jésus, il est très radical. D'ailleurs, dans deux semaines, je reprends un texte encore un peu plus radical. C'est Jésus lui-même qui va parler de ça. Mais du coup, c'est à nous ici de faire les efforts. de mettre les choses en place avec le temps, mais de faire les efforts en place. Et mes frères et sœurs, je vous le dis, hein, à l'église, c'est très facile puisque nous connaissons le Christ. Nous avons un même Père. Et du coup, aller vers l'autre, souvent, ce qui nous freine, c'est la différence. Et une fois qu'on dialogue, on se rend compte finalement que, bah, ouais, mais pourquoi on n'a pas fait ça depuis longtemps? Est-ce que ça vous va? Allez, je conclue avec deux versets. Romains 15, verset 7. Aussi, accueillez-vous les uns les autres. Pourquoi? Comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, c'est Jésus qui parle, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous aimiez les uns et les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ici, il n'est pas question d'autre chose que l'amour, il n'est pas question de la prière, il est question ici de l'amour visible que nous nous portons les uns aux autres.